Bonsoir à tous. La situation en Ukraine et la tension à son comble sur le front est du pays, à la une d'une actualité toujours plus préoccupante. De nouveaux bombardements aujourd'hui. Un ministre ukrainien échappe à des tirs de mortier. La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Nous serons à Kiev dans un instant. La campagne présidentielle en France devant le Mont-Saint-Michel. Éric Zemmour exalte la puissance et les valeurs chrétiennes de la France et se présente comme le candidat du second tour face à Emmanuel Macron. Dans ce journal également, la mort de Jean-Luc Brunel, l'ancien agent de mannequin, proche de Jeffrey Epstein, retrouvé mort, pendu dans sa cellule. La Réunion, placée en alerte orange à l'approche du cyclone Emnati, et les usagers des transports très critiques vis-à-vis de la nouvelle application de la SNCF. La météo, Mossad, avec du vent et de la pluie. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
La situation en Ukraine et les tensions qui montent encore d'un cran. La France recommande à ses ressortissants de quitter le pays. Berlin est encore plus explicite et appelle les ressortissants allemands à quitter urgemment l'Ukraine. La Lufthansa suspend ses vols vers l'Ukraine à partir de lundi. Sur le terrain, le cessez-le-feu ne tient plus. Cet après-midi, alors que le ministre ukrainien de l'Intérieur, Denis Monastirsky, était en déplacement sur la ligne de front dans l'est du pays, deux obus de mortier ont explosé à proximité du ministre et de sa délégation sans faire de blessés. Auparavant, Kiev annonçait qu'un deuxième soldat ukrainien avait été tué aujourd'hui sur le front de l'Est. Et si dans l'Est de l'Ukraine, la flambée de violence fait redouter une offensive russe, à Kiev en revanche, la guerre semble encore très loin. Reportage sur place, Eric Bégala.
À Kiev, on n'a pas du tout l'impression d'être à la veille d'un conflit. C'est un samedi après-midi normal, ensoleillé. Dans les parcs, les familles promènent les plus petits, on fait du shopping dans les principales artères de la capitale. Le risque d'une attaque massive de la Russie voisine, on préfère ne pas le voir. D'ailleurs, un récent sondage d'opinion montre qu'à peine la moitié de la population ukrainienne estime qu'il y a un vrai risque militaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se prépare pas, explique Oleksiy Melnyk, consultant sécurité au cercle de réflexion Razumkov Center.
Ce qu'on voit dans la rue, c'est que les gens sont calmes. Peut-être pas détendus, mais calmes. C'est à peine si on remarque une présence militaire en ville. Mais en fait, il y a des préparatifs comme ceux de la défense territoriale. Il y a une blague qui circule en ce moment. Les rayons des supermarchés sont pleins, c'est-à-dire que les gens ne font pas de stock et ne paniquent pas. Les rayons vides, ce sont ceux des boutiques qui vendent des armes et des cartouches.
Manière de dire que la population ukrainienne se tient prête à résister. D'ailleurs, dans le même sondage d'opinion conduit mercredi et jeudi dernier par le groupe Writing, 61% des Ukrainiens et 32% des Ukrainiennes se disaient prêts à prendre les armes pour défendre leur pays. Kiev, Éric Biegala, France Inter.
Depuis Munich, cet après-midi, où il participe à la conférence sur la sécurité réunissant l'OTAN et l'Union européenne, le président ukrainien Zelensky a décrit son pays comme le bouclier de l'Europe contre l'armée russe. Volodymyr Zelensky a aussi proposé une rencontre avec Vladimir Poutine. De son côté, Kamala Harris, la vice-présidente américaine également à Munich, a menacé la Russie de sanctions sans précédent en cas d'attaque.
Je peux dire avec une certitude absolue que si la Russie envahit davantage l'Ukraine, les États-Unis, avec nos alliés et partenaires, imposeront des pénalités économiques importantes et sans précédent. Nous avons préparé des mesures économiques qui seront rapides, sévères et concertées. Nous ciblerons les institutions financières et les industries clés de la Russie.
Kamala Harris lors de son point de presse en marge de la conférence de Munich. L'actualité en France, l'actualité politique et la campagne présidentielle à 50 jours du premier tour. Éric Zemmour était aujourd'hui sur les côtes normandes, un déplacement avec des références au général de Gaulle et un meeting à la mi-journée au Mont-Saint-Michel. Le candidat d'extrême droite a de nouveau lancé des clins d'œil à l'électorat de droite. Mais c'est désormais un duel du second tour face à Emmanuel Macron qu'Éric Zemmour tente d'installer. Reportage Anne Souhaitement.
Meeting près des plages du débarquement, photo sur un chalutier baptisé le Grand Charles, Éric Zemmour a multiplié les clins d'œil gaullistes aujourd'hui.
Depuis le général de Gaulle, nous avons vocation à rester libres. Nous ne serons les obligés de personne, ni des Américains, ni de l'OTAN, ni de l'Europe, ni même de l'ONU.
Illustration de sa dynamique à droite, dans le public, beaucoup d'ex-électeurs LR.
J'étais républicain, déçu des républicains, qui ne font rien, qui ne changeront rien.
Je trouve qu'ils ne sont pas très cohérents, les républicains. Ça tire un peu de tous les côtés. Et moi, j'ai envie d'avoir une voix bien claire et de la suivre.
Pas question pour autant de ne parler qu'à la droite, insiste Guillaume Pelletier, ancien vice-président des LR, rallié à Éric Zemmour.
Bien sûr que nous parlons à la droite. Éric Zemmour est le seul candidat de droite. On le voit bien de plus en plus, c'est ce que perçoivent les Français. Mais au-delà de la droite, c'était un discours pour les Français, pour dire voilà, vous aurez à juger. Deux visions du monde, celle d'Emmanuel Macron qui est celle du déclin accepté et de l'autre Éric Zemmour qui veut refaire de la France une puissance universelle.
Car après avoir lancé l'OPA sur la droite, c'est Emmanuel Macron qu'Éric Zemmour attaque désormais.
La diplomatie macronienne est parfaitement conforme à sa politique intérieure. Beaucoup de slogans, une autosatisfaction permanente et en fin du compte, le vide.
À 50 jours du premier tour, Éric Zemmour joue donc le duel avec le président sortant, enjambant Marine Le Pen.
Anne Souhaitement avec Laurent Macchetti. Jean-Luc Brunel, l'ex-agent de mannequin soupçonné de viol, a été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. Jean-Luc Brunel était en détention provisoire depuis 2020 à la suite de sa mise en examen pour viol sur mineur. Selon les enquêteurs, il était un rabatteur de Jeffrey Epstein, retrouvé aussi pendu dans sa cellule en 2019. La mort de Jean-Luc Brunel signifie la fin de l'action publique dans ce dossier, sauf si d'autres personnes devaient être mises en cause. Et pour maître Anne-Claire Lejeune, avocate des parties civiles, il y a une frustration et de l'amertume de ne pas pouvoir obtenir justice. Anne-Claire Lejeune avec Charlotte Piret.
Ça a d'abord été pour mes clientes un grand choc psychologique. Elles étaient relativement dévastées à l'annonce de cette nouvelle ce matin. Elles avaient un petit peu des difficultés à verbaliser leurs émotions. Et puis, rapidement, ce qui a pris le dessus, évidemment, c'est la déception, la frustration de ne pas pouvoir confronter Jean-Luc Brunel. Que Jean-Luc Brunel puisse être reconnu coupable par une juridiction. Alors oui, effectivement, la mise en examen était une première étape importante, essentielle. Et donc, elles ont eu le sentiment que leur parole était enfin prise en considération. C'était un point important. Néanmoins, ça ne remplacera jamais la reconnaissance qu'elles auraient pu avoir d'un statut de victime et un procès. Ça, c'est quelque chose qui était essentiel pour elles. Ça n'aura pas lieu.
Anne-Claire Lejeune, avocate des parties civiles. La Réunion, placée en alerte orange à l'approche du cyclone Emnati. Dans les prochaines heures, les vents pourraient dépasser les 120 km/h sur le littoral, 140 dans l'intérieur de l'île, avec de fortes pluies. La Réunion, déjà éprouvée par le cyclone Batsirai au début du mois, redoute maintenant une catastrophe en chaîne. Le pétrolier mauricien, le Tresta Star, qui s'est échoué le 3 février en raison de la forte houle provoquée par le cyclone, perd désormais du fioul dans l'océan. Plusieurs nappes d'hydrocarbures ont été signalés sur place à La Réunion, Lola Fourmi.
Le pétrolier mauricien s'est échoué au début du mois à la pointe du Tremblay à Saint-Philippe, une zone particulièrement compliquée car il s'agit là d'une coulée de lave apparue en 2007 et le bateau y est profondément enfoncé. L'armateur du Tresta Star prétendait qu'il naviguait à vide et ne contenait que 8 mètres cubes de fioul, mais ce serait finalement plus de 21 mètres cubes de fioul qui auraient déjà été pompés. Problème, depuis hier, plusieurs nappes d'hydrocarbures se répandent autour du bateau et s'étalent désormais sur 50 mètres de large et plus de 2 km de long. Et la forte houle n'a rien arrangé. Un trou béant de plusieurs mètres permet désormais à la mer de s'engouffrer dans le bateau et des parties de la coque ont été arrachées. Les autorités craignent une dislocation prochaine du navire avec des morceaux prêts à couler ou à s'échouer sur la côte et des rejets de pétrole pendant les prochains jours. Mais la préfecture l'assure, les équipes sont prêtes à intervenir dès que la météo le permettra. En attendant, le maire de Saint-Philippe en appelle à la responsabilité de l'armateur et demande que le principe du pollueur-payeur soit respecté. Lola Fourmi sur l'île de La Réunion pour France Inter.
La SNCF fait son mea culpa. Le lancement de Connect, la nouvelle application décriée pour ses bugs en cascade, a été trop brutal, a reconnu le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. L'entreprise ferroviaire promet que le fonctionnement de sa nouvelle application sera optimal d'ici fin mars. Michel Kidor, président de la FNOT, la Fédération des usagers des transports, veut faire confiance à la SNCF, mais selon lui, un service rendu doit être le bon dès le départ.
La SNCF mise tout sur cette application, c'est très bien. Mais en même temps, elle ferme des boutiques, elle ferme des guichets. Et ça, les voyageurs tiennent aussi à aller faire leurs acquisitions ou chercher des renseignements dans ces endroits. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, comme en Europe d'ailleurs, on estime 20 à 30% de gens qui souffrent, comme on dit, de illectronisme, qui sont fâchés, qui ne sont pas à l'aise avec l'outil Internet. Donc ces gens-là, il ne faut pas non plus les laisser sur le bord du chemin. Alors, les problèmes que l'on rencontre, ça vient, je pense, des algorithmes que la SNCF a introduits dans son système. Par exemple, si vous voulez faire des trajets de province à province, c'est SNCF Connect, vous privilégiez un passage par Paris. Donc un TGV jusqu'à Paris, puis ensuite un autre TGV pour aller à l'autre ville de province, alors qu'il y a des liaisons par TER ou par Intercité pour moins cher et peut-être parfois même pour plus rapidement. Donc ça, c'est très gênant. Un autre problème, c'est qu'il est impossible d'acheter un billet où vous devez changer plus de deux fois, ce qui est parfaitement faisable sur d'autres applications. SNCF Connect, si vous devez changer deux fois, si vous devez changer trois fois, c'est pas possible. Et là aussi, on demande un peu plus de souplesse dans l'application.
Michel Kidor de la FNOT sur France Info. Le Vatican se penche depuis deux jours sur le rôle du prêtre dans une société en pleine crise des vocations. De nombreuses questions se posent notamment en raison des scandales de pédophiles dans l'Église. Et l'une d'entre elles revient en force ces derniers temps. Le célibat des prêtres doit-il rester une obligation? Et cette règle qui fait de plus en plus débat est évoqué lors d'un symposium sur le sacerdoce au Vatican. Deux jours de réflexion théologique jusqu'à ce soir. Sur place à Rome, Bruce de Galzin.
Sacerdoce et célibat, une lecture théologique du chemin de l'Église hier et aujourd'hui. Derrière ce titre un peu abscon, le Vatican cherche quand même à s'inscrire dans son temps. Mais deux courants s'opposent. Benoît XVI et le cardinal Sarah, notamment, opposés à toute remise en cause du célibat. Une partie de l'Église d'Amérique du Sud et d'Europe du Nord fait pression, au contraire, comme le cardinal allemand Marx, proche collaborateur du pape, favorable au mariage, comme le cardinal luxembourgeois Ulrich, qui se demande si le célibat est indispensable et il aura l'an prochain un rôle capital au Vatican. Le pape, lui, a évoqué la question seulement 30 secondes dans un discours d'une heure en ouvrant le symposium.
Le célibat est un don que l'Église latine conserve, mais un don qui nécessite des relations saines, des rapports d'estime véritables qui trouvent leur racine dans le Christ. Sans amis et sans prière, le célibat peut devenir un poids insupportable et un contre-témoignage à la beauté même du sacerdoce.
Ces mots du pape ne ferment pas complètement la porte, le débat existe, mais François n'est pas encore prêt à rendre le célibat optionnel. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Un accident de chasse à nouveau. Une randonneuse de 25 ans a été tuée aujourd'hui par une balle perdue pendant une battue au sanglier. Les gendarmes venus sur place ont identifié le tireur qui sera poursuivi pour homicide involontaire, indique le parquet d'Aurillac. Il y a presque deux ans, jour pour jour, Mulhouse, frappée par l'épidémie de Covid, devenait l'épicentre de la maladie. Les hôpitaux débordés, l'armée prêtant main forte et la ville mise sous cloche. La photographe indépendante Catherine Koller a couvert ces événements et de ce travail est né un livre, Shooting Covid, rassemble plus de 200 photos de cette période. 30 tirages extraits de ce livre sont exposés depuis hier aux archives municipales. Une façon de penser les plaies du Covid et d'effectuer un devoir de mémoire. François Chagnou, France Bleu Alsace.
Sur la couverture, deux silhouettes en combinaison blanche désinfectent la rue au pied du temple Saint-Étienne. Un exemple du cauchemar que la photographe Catherine Koller espère exorciser grâce à ce livre.
Je sentais la nécessité d'y aller, de faire des photos, d'informer et d'avoir une trace de toute cette page de l'histoire qui est en train de s'écrire devant nos yeux. Je pense que tout le monde a gardé quelque chose en lui de traumatisant. Je pense que d'en parler tous ensemble, en fait, ça nous fait juste du bien.
Des souvenirs gravés dans la chair qui refont surface. Robert revoit en photo cette tente de l'hôpital militaire dans laquelle il passe 43 jours à partir de mars 2020, plongé dans le coma.
Il faut qu'on s'en souvienne. Pour moi, c'est un retour à la vie. Il faut que ça reste dans la mémoire. Il ne faut pas qu'on oublie. Ça marque le siècle. Hein.
Même s'ils ont vécu cette crise ici, à Mulhouse, Marie-Claire et Jean-Marie ne découvrent qu'aujourd'hui l'étendue du désastre.
L'immensité de l'hôpital militaire, là, on ne l'avait pas vu en vrai. Hein.
On a quand même quelques amis qui sont partis tout de suite au début. On voulait garder un petit peu le souvenir de cette période qu'on va mettre de côté puis pour en parler un peu plus tard avec les enfants ou les petits-enfants.
C'était les réactions qu'attendait la journaliste et éditrice Laure Pinchina.
Plus on revient sur un trauma, plus on aura de facilité à passer à autre chose. Et je pense qu'on en est là, maintenant.
Et pour que cette mémoire ne meure jamais, la ville de Mulhouse conserve ses photos dans ses archives.
Mais ces photographies sont exposées jusqu'au 31 mai aux archives municipales de Mulhouse. Le temps pour demain.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Après le temps pluvieux et venté de la nuit sur les régions du nord de la Loire et du nord de la Seine, la journée de dimanche sera globalement maussade sur les deux tiers nord du pays, tandis que des Pyrénées aux Alpes et sur le bassin méditerranéen, le ciel sera plus clément avec un mistral et une tramontane modérée. Plus près de la Manche, en descendant vers la Loire et en allant vers la Belgique, le vent déjà sensible en journée vers 60 km à l'heure va se renforcer en soirée de la Normandie au Hauts-de-France, puis jusqu'au Grand Est la nuit suivante, donnant des fortes rafales de secteur ouest jusqu'à 110 km à l'heure, vent fort s'accompagnant de pluies à caractère marqué. Au lever du jour, de faibles gelées sont probables sur le Béarn et la Bigorre, contre 4 à 8 degrés ailleurs. L'après-midi, les valeurs vont partout gagner 2 à 4 degrés par rapport à aujourd'hui.
Jean-Michel Golinski de Météo France.